Bonsoir à tous et à tous. Donc, merci de votre présence ce soir pour cette deuxième conférence organisée par le département sciences et techniques dans le cadre de la programmation de l'exposition L'appel de la forêt. Je vous précise que le 14 janvier prochain, nous recevons Francis Allais ainsi que Gilles Bersolt et Dany Kleggemeyer pour parler de leur aventure du radeau des Cimes qu'ils ont pendant les années 70, cette structure qu'ils ont créée et qui leur a permis d'étudier la canopée de l'Amazonie et de la forêt amazonienne. Voilà. Mais ce soir, du coup, nous recevons avec grand plaisir Isabelle Chouin, qui est directrice de recherche CNRS et qui travaille au centre de recherche, au centre
d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier.
Voilà, merci, c'est plus simple, et qui est spécialiste de l'acclimatation
de l'impact des changements climatiques sur les arbres forestiers.
Surtout. Voilà, tout à fait, et qui en 2023 a coordonné le rapport commandé par l'Académie des sciences sur les forêts françaises et le changement climatique, et donc c'est sur ce sujet que nous vous avons demandé d'intervenir ce soir pour nous faire un état des lieux de la situation, différents enjeux et des solutions, enfin entre guillemets solutions proposées pour que nos forêts continuent d'être dans l'état que nous connaissons aujourd'hui. Donc cette conférence, cette présentation va durer à peu près une heure. Ce sera suivi de questions, enfin vos questions, sachant qu'on arrêtera au plus tard, je pense à 20h05, parce que Madame Chouin a son train derrière, donc il faut qu'elle retourne chez elle. Donc je vous demanderai de penser à éteindre vos portables. Et la sortie se fera du même côté que l'entrée, enfin puisque la côté Vivier et Merle, c'est côté... Et vous, c'est le principal. Côté centre commercial. Voilà, je vais vous laisser la parole.
Merci. Merci beaucoup. Est-ce que ça va pour le son ? Oui. Parfait. Donc, je suis une écologue. Je travaille sur les arbres forestiers depuis pas mal d'années. Je ne suis pas une spécialiste de la gestion forestière, donc ne me posez pas de questions trop précises là-dessus, s'il vous plaît, après. Mais on va parler aujourd'hui du changement climatique et du rôle, alors de l'impact sur les forêts, puis du rôle aussi que jouent les forêts dans notre stratégie d'atténuation du changement climatique. Donc la plupart des éléments, enfin beaucoup des éléments que j'ai mis dans cette présentation sont tirés de ce rapport de l'Académie des sciences, que vous pourrez trouver en ligne sur le site de l'Académie. Et puis j'ai vu qu'en parcourant l'exposition, là, juste avant, qu'il y avait pas mal de liens aussi avec l'exposition. Si vous l'avez vu, vous verrez qu'on va reparler de certaines choses qui sont aussi dans cette exposition. Donc on va parler tout d'abord des contributions des forêts à notre bien-être. Avant de faire un peu une sorte de carte d'identité des forêts françaises et de sa filière bois. Avant de rentrer dans le vif du sujet concernant les impacts du changement climatique sur les forêts, je ne vais pas vous faire rêver hein, ce soir, vous l'aurez compris. Je suis désolée, on va aborder des sujets un petit peu lourds quand même, je tiens à l'annoncer. Avant de voir quels sont les challenges à relever pour la filière forêt-bois. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler des concepts des valeurs de la nature ? Non ? Ou des contributions de la nature au bien-être des populations humaines ? Oui. On dit aussi services écosystémiques. Voilà, donc services rendus par les écosystèmes. On préfère maintenant parler des contributions de la nature au bien-être des populations humaines. Et puis, on parle même maintenant des valeurs. Alors, moi, je vais jongler un peu entre ces trois terminologies. Et on va en parler quelques minutes pour vous compreniez bien pourquoi les forêts actuellement sont devenues un peu un sujet de discorde dans notre société. Alors, les forêts ont toujours été un peu un sujet de discorde, mais aujourd'hui, ça, voilà, ça prend un peu une autre dimension du fait de ce changement climatique. Donc, ici, vous voyez représenté toutes les, enfin, pas toutes même, la plupart des contributions, on va dire, que rendent les forêts à nos sociétés humaines. Donc, vous voyez sur la droite ce qu'on appelle, on a appelé aussi les services d'approvisionnement. Donc, c'est tout ce qui est fourniture de matériaux pour donc les produits bois, pour la construction, pour l'ameublement, pour tout un tas de choses. Mais c'est aussi le bois énergie. On est passé. Alors, on utilise toujours beaucoup de bois. On va le voir beaucoup tout au long de cette présentation. Mais on est passé d'une économie qui était basée sur la production d'énergie par le bois avant de passer à une économie basée sur l'utilisation du charbon, puis du pétrole et du gaz. Bon, maintenant en France, on est sur le nucléaire. Et puis progressivement, on essaye d'avoir d'autres sources renouvelables de production d'énergie. Vous voyez aussi alors, les produits de cueillette, il ne faut pas les oublier, même si ça représente économiquement pas grand-chose, mais les forêts, en tout cas pour la France, hein, parce que si on prend les forêts dans le monde, ces produits de cueillette sont vitaux pour un grand nombre de populations autochtones. Et vous voyez aussi les médicaments. Il faut savoir que les deux tiers des molécules utilisées dans l'industrie pharmaceutique sont issues de plantes ou d'animaux sauvages. Ensuite, vous voyez tout en bas ce qu'on appelle les contributions à notre santé et à notre culture. Donc, notre santé physique et mentale, de toute façon, les deux sont liés. Contribution aussi à toutes nos activités de loisirs, au tourisme, leur importance dans nos paysages et du coup dans notre identité aussi culturelle, voire notre identité parfois religieuse, spirituelle. Et à gauche, vous avez toutes les services de régulation, qu'on appelle de régulation. La régulation du climat. Il faut savoir que la végétation et les forêts sont une composante essentielle du système climatique. Pourquoi ? Parce que les plantes échangent de l'eau, des gaz et de l'énergie avec l'atmosphère. Puits de carbone, ça c'est venu un peu en exergue actuellement. Hein. On va en reparler beaucoup après. Donc un puits de carbone, les forêts, enfin la végétation et les forêts notamment sont actuellement le seul puits de carbone qui existe en fait. Et c'est un puits naturel. Purification de l'eau et de l'air, régulation du cycle de l'eau, la végétation sont la végétation et les écosystèmes naturels des sortes d'éponges quand on a des puits diluviens, donc ça permet de réguler déjà les flux d'eau. Et bon, après, il y a la purification de l'eau et de l'air. Un rôle essentiel dans l'érosion des sols et dans la protection contre les avalanches. Et puis, vous avez ici un petit disque Habitat pour la biodiversité. Les forêts hébergent tout un tas d'espèces animales et végétales, comme on l'explique aussi dans l'exposition. Et derrière ce terme habitat, il y a d'autres choses encore. Un quatrième type de contribution qu'on appelle les services de soutien. Soutien en fait à toutes les autres contributions. Et derrière ce service de soutien, ce qu'il y a, c'est la photosynthèse que réalisent les plantes, qui est notre source d'énergie, la base de toutes nos chaînes alimentaires. La formation des sols. Et tout le recyclage des nutriments, de tous les nutriments. Et ces trois piliers, ce sont les trois piliers du maintien de la vie sur Terre. Et on pourrait rajouter la diversité des êtres vivants et leur diversité génétique qui est le moteur de l'évolution génétique, l'évolution au sens darwinien, qui est la source d'adaptation des êtres vivants à leur milieu, et notamment quand ce milieu se met à changer, et en particulier assez brutalement. Donc, toutes ces contributions, ou services, ou valeurs des forêts, vous voyez qu'elles contribuent aussi à 11 des 17 objectifs de développement durable qui ont été, fixés par les pays membres de l'ONU il y a une dizaine d'années maintenant, en 2015. Alors j'en parle ici, mais je ne vais pas détailler, mais j'en parle parce que souvent les Français ne connaissent pas ces objectifs de développement durable. Donc vous les voyez ici, ils sont dans l'ordre, dans le désordre, hein, parce que chacun se réfère à une des contributions que j'ai énoncées des forêts. Donc c'est éradication de la faim, de la pauvreté, mais c'est aussi maintenir un climat viable, c'est aussi avoir une eau propre. C'est différentes choses, voilà, qui ont été fixées par ces pays membres de l'ONU comme objectif. Et les forêts sont les seuls écosystèmes naturels qui, de par leur contribution, contribuent autant en fait à ces objectifs de développement durable. Pour terminer sur cette partie les contributions des forêts, je voulais mentionner aussi le fait que les forêts et globalement les écosystèmes naturels sont ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature. Alors c'est quoi des solutions fondées sur la nature? La définition est ici. C'est le fait de protéger et restaurer des milieux naturels qui ont été dégradés de manière à ce qu'ils rendent à nouveau les services qu'ils rendaient aux hommes, avec un grand H, et à l'ensemble des êtres vivants. Et ces solutions, alors on va voir un exemple juste après, mais souvent ce sont des solutions qui permettent à la fois de s'adapter au changement climatique et de l'atténuer. Et c'est pour ça que dans son dernier rapport, le GIEC, qui est le groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique, a mis en exergue le fait qu'il fallait préserver la biodiversité et les écosystèmes naturels et les restaurer, parce que ça permettait à la fois de s'adapter et d'atténuer le changement climatique. C'est la première fois que le GIEC met cela en avant dans son rapport. Et c'est parce que, je rappelle quand même que le GIEC, ce sont des chercheurs qui font une revue de toute la littérature scientifique. Ils mettent à jour ça tous les 4-5 ans. Et comme il y a eu de plus en plus de travaux qui mettaient en évidence le fait que les écosystèmes naturels jouent un grand rôle dans la dynamique climatique, le GIEC a fini par l'écrire noir sur blanc dans son rapport. Et c'est la première fois aussi que le GIEC frappe un peu du poing sur la table, on va dire, dans son rapport, en alertant les politiques, en leur disant « Maintenant, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose. On en a un peu marre de vous dire comment évolue le climat. Il faut vraiment passer à l'action. » Alors un petit exemple, et là aussi j'étais contente de voir qu'il y a un projet ici même qui va commencer de forêts urbaines. Alors les forêts urbaines ou périurbaines sont des solutions fondées sur la nature. Pourquoi? Parce qu'elles permettent d'atténuer le changement climatique. Pourquoi? Parce que je rappelle que la photosynthèse est un processus physiologique qui permet aux plantes d'utiliser le CO2 atmosphérique, qui est un gaz à effet de serre, avec l'énergie lumineuse du soleil, de transformer ça en des sucres qui vont ensuite transformer en d'autres molécules pour son fonctionnement, pour sa croissance, mais aussi pour se défendre contre des pathogènes ou des ravageurs. Donc ce sont des puits de carbone, ça séquestre le CO2. Et puis, ça permet de lutter en milieu urbain, contre les îlots de chaleur, qui vont devenir de plus en plus, intenses en milieu urbain, et aussi les inondations, J'en parlais tout à l'heure, de par cet effet éponge qui peuvent jouer, et donc de réguler mieux les flux d'eau en cas de pluie intense et de limiter les dommages que ça peut créer. Voilà, donc j'ai vu qu'il y avait un projet de forêt à Pardieu qui doit commencer bientôt. Alors, voilà, j'en viens à ma deuxième partie. Est-ce qu'il y a des éléments de compréhension? Je peux prendre juste une question de compréhension s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair dans cette première partie, mais juste non. Pour la discussion, on verra tout à l'heure. Oui, monsieur. Alors, ce n'est pas que les forêts. Donc, la végétation, alors il y a la végétation terrestre et puis végétation, enfin, donc tout ce qui photosynthétise, phytoplancton dans les océans aussi, bien sûr. En termes de niveau de puits, le puits végétation terrestre est un peu supérieur au puits océanique. Alors. Donc on va maintenant dresser une sorte de carte d'identité de nos forêts françaises. Alors je vais parler aujourd'hui de nos forêts métropolitaines, mais je vais dire juste deux mots quand même sur nos forêts d'outre-mer. Donc vous voyez qu'elles couvrent à peu près 8 millions d'hectares, soit le moitié moins de nos forêts métropolitaines. Elles sont essentiellement localisées en Guyane. Et c'est une forêt publique qui est très peu exploitée et qui stocke, vous le voyez, autant de carbone quasiment que les forêts métropolitaines, malgré deux fois moins de surface. Et par contre, qui ne séquestre plus beaucoup de CO2. C'est-à-dire que chaque année, elle séquestre 0,3 million de tonnes de CO2. Pourquoi ? Parce que ce sont des forêts qui sont... vieilles et qui sont à l'équilibre. Alors, je vous disais tout à l'heure que les arbres séquestrent le CO2 en photosynthétisant, mais il ne faut pas oublier aussi que les plantes respirent, comme nous, du CO2. Donc, oui, on va faire des grands yeux. Donc, il y a un bilan journalier. Elle consomme du CO2, la plante, elle en relâche aussi, donc au bilan, sur une journée. Alors, si on est en hiver, il est... négatif le bilan, si on est au printemps, en été, il est positif. Sur une forêt qui est mature, on a, on reverra ça aussi tout à l'heure, parce qu'en vieillissant, les arbres séquestrent un peu moins que quand ils sont jeunes, et on a un équilibre qui se fait. Donc la forêt, l'écosystème entier, il n'y a pas que les arbres aussi dans la forêt, il y a le sol, les micro-organismes du sol respirent. Donc voilà, il y a un équilibre qui se fait. Si on passe aux forêts métropolitaines, donc vous voyez qu'elles couvrent à peu près le tiers de notre territoire, ce qui est beaucoup plus qu'avant. Ça aussi, c'est expliqué dans l'exposition, je ne vais pas revenir dessus. Ce sont des forêts essentiellement privées, donc trois quarts privées. Il n'y a que 13% de plantations. Donc ces plantations, elles sont essentiellement localisées dans la forêt des Landes, qui est une... culture de pins maritimes, aussi dans notre région comme le Morvan, mais ça paraît relativement peu finalement. Elle séquestre ces forêts près de 40 millions de tonnes de CO2 par an, ça c'est la moyenne à peu près sur les 10 dernières années. Et elles sont composées, ces forêts, souvent d'une seule essence. Donc en majorité une seule essence. Cette essence, c'est souvent des feuillus. Et si on regarde dans le détail les différentes essences qu'on a dans nos forêts, alors ici c'est pas en surface, mais c'est en mètres cubes de bois, mais vous voyez que les chênes représentent près du quart des essences. Donc le chêne pédonculé et le chêne rouvre, ou on dit chêne sessile, qui sont deux espèces extrêmement proches sur le plan écologique et même morphologiquement. Si vous ne voyez pas leurs glands, c'est très difficile de les distinguer. On voit aussi que ces forêts, elles sont très majoritairement ce qu'on appelle des futaies régulières, c'est-à-dire que les arbres ont tous le même âge, ils ont été plantés au même moment. Et en second lieu, ce qu'on appelle des taillis sous futaies, donc c'est-à-dire qu'on laisse sous ces grands arbres cette futaie, d'autres essences qui sont plus petites pousser, et souvent ce sont on les utilisait avant surtout pour le bois de chauffe. Tout ce régime de taillis de futaies et de taillis sous futaies est arrivé à peu près sous Colbert. D'une part pour les futaies pour alimenter l'industrie navale et pour le taillis sous futaies pour conserver une production de bois de chauffe. Voilà. Ensuite, globalement, si on devait donner une seule image un peu représentative des forêts françaises métropolitaines, eh bien, ce serait une futaie régulière de chênes. Donc, c'est-à-dire ceci. Là, je vous ai mis une photo d'un taillis sous futaie. Et ici, c'est une futaie irrégulière qui est très peu présente dans nos forêts en France, une futaie irrégulière, c'est-à-dire ce sont des arbres qui ont des âges différents et donc des tailles différentes. Et souvent, on essaie aussi d'avoir des essences un peu variées. Et pour terminer, voilà, ici, on a un peu l'évolution sur les 10 dernières années de ce qui se passe dans nos forêts. Et on voit que la croissance des arbres a diminué, que la mortalité a beaucoup augmenté et que les prélèvements ont également augmenté. Donc la récolte de bois a augmenté. En termes de surface, donc voilà la répartition des surfaces. Il faut savoir que la forêt française est toujours en expansion. Elle l'est depuis qu'on est passé d'une économie basée sur la production d'énergie par le bois à une économie basée sur le charbon, puis voilà, après toutes les ressources fossiles. On a un peu une diagonale entre Metz et Bordeaux, avec des surfaces beaucoup plus boisées en dessous de cette ligne, parce que c'est là qu'on retrouve aussi les massifs montagneux. Donc ce sont des régions où l'agriculture est plus difficile à mettre en œuvre, donc on a plus de forêts. Et en termes de volume de bois sur pied, vous voyez que les deux cartes se ressemblent beaucoup, sauf sur la partie méditerranéenne, pourtour méditerranéen. Pourquoi ? Parce qu'on a des petites forêts. Sur le pourtour méditerranéen, on a des petites forêts parce qu'il fait plus chaud et plus sec, et que dans ces conditions-là, les arbres ne peuvent pas pousser autant que quand ils ont plus d'eau, tout simplement. Alors, quelques mots sur la filière bois. Donc, à quoi sert le bois ? Quand on a des futaies qui produisent de grands fûts, de grands troncs, on utilise cela pour ce qu'on appelle du bois d'œuvre, donc à la fois pour le bois construction, mais aussi pour ameublement. Les bois de plus petit calibre sont, eux, plutôt utilisés pour le bois industrie. Et en France, ce bois industrie, c'est essentiellement la filière papier. Et puis, les plus petits calibres, et puis tous les résidus aussi de transformation, depuis la scierie, en scierie, et puis dans toute la chaîne de transformation, sont utilisés pour la production d'énergie. Donc le bois énergie. Et donc la taille de mes petites icônes ici reflète un peu l'importance des différentes sous-filières du bois. Et on le voit aussi ici chiffré. Ça, ce sont les chiffres les plus à jour de 2020. 23 sur les volumes exploités par la filière par an. Donc vous voyez qu'on a un tiers du bois prélevé qui est autoconsommé pour la production d'énergie. Et puis ensuite, voilà, ça se répartit. Donc on a des gros volumes qui partent en bois d'œuvre, mais au final, les produits bois représentent en pourcentage du prélèvement très peu en fait, parce qu'il y a beaucoup qui part à la fin en production d'énergie. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'au bilan, on a 68% du bois prélevé en forêt qui finit en énergie. Donc ça veut dire qu'il repart immédiatement dans l'atmosphère en termes de bilan carbone. Bien. Voilà, donc il y a des questions de compréhension sur cette partie. Donc je vous propose de passer à cette troisième partie pour parler du changement climatique et ses impacts sur les forêts françaises. Enfin, française, mais vous allez voir que parfois, on va dépasser un peu le cadre français. Mais... Alors, avant de faire ça, il faut que je fasse une toute petite mise au point sur le changement climatique lui-même. Donc, vous voyez ici l'évolution. On va prendre le temps de lire ce graphique parce que c'est pas toujours évident. Vous voyez ici l'évolution d'abord des températures de 1970 à 2020. Ce sont en fait des écarts de température à une période de référence, à la moyenne d'une période de référence. Et ici, cette période, c'est 1976-2005. Donc, on est quand même bien après le début de l'ère industrielle. Et donc, toutes les barres en bleu, ce sont des années plus froides que cette moyenne de référence. Et en rouge, plus chaudes que cette moyenne de référence. Et ensuite, les courbes ici vous représente l'évolution jusqu'en 2100, l'évolution prévue de la température en France selon trois scénarios d'évolution de nos émissions de gaz à effet de serre. En vert, c'est le scénario des accords de Paris qui ne va pas se réaliser. En violet, c'est la trajectoire sur laquelle on est actuellement. Et voilà, en orange, c'est la trajectoire sur laquelle on aimerait bien trajectoire qu'on aimerait bien rejoindre. Voilà. Et pour rejoindre cette trajectoire, il faudrait que, au niveau mondial, le pic des émissions soit atteint en 2040, au plus tard. Voilà. Donc, ce scénario-là, qu'on appelle le RCP 4-5, il ne permettra pas de stabiliser le réchauffement à la fin du siècle, il permettra de le stabiliser à la fin du siècle suivant. Et puis le scénario 8-5, on sait pas, enfin, ouais, difficile de dire quand il se stabilisera, mais en tout cas, on atteindrait 8 degrés de réchauffement à la fin du 22e siècle. Oui, alors juste pour mentionner, donc là, les écarts que vous voyez, encore une fois, c'est par rapport à cette période de référence. Si vous voulez resituer ça par rapport au début de l'ère industrielle, vous rajoutez 1,5 degré à peu près. Bien, donc ce cadre étant posé, revenons aux forêts. J'ai repris cette illustration d'une publication d'un collègue dans Science. Qui je trouvais illustrer assez bien le propos que je voulais tenir ce soir. Donc, ce sont représentées ici les principales menaces qui pèsent sur les forêts. Donc, vous avez bien sûr les incendies de forêt. mais aussi j'aurais pu traduire en français, mais donc tout ce qui est ravageur et pathogène, le stress climatique, le changement climatique et la surexploitation par l'homme. Et on va voir que ces quatre menaces sont bien sûr liées. Depuis quelques années, on voit des dépérissements forestiers et en fait un peu partout dans le monde. Vous voyez sur cette carte, ça c'est une carte que j'ai tirée du dernier rapport, mais du rapport 2014 du GIEC, qui déjà pointait chaque point, en fait, c'était des dépérissements assez massifs qui étaient imputés au changement climatique. Et donc, vous voyez que ça se passe partout dans le monde où il y a des forêts. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans chacune de ces régions, vous avez des essences forestières, des espèces qui vivaient là parce qu'elles étaient adaptées aux conditions climatiques qu'il y avait là. Et si vous modifiez ce climat, eh bien, ces espèces, elles sortent des conditions dans lesquelles elles sont capables de vivre et de se reproduire. Donc, chez nous, on a eu beaucoup de dépérissements d'épicéas. C'est là où on a eu le plus de dépérissements. On va en reparler, mais on en a aussi beaucoup dans les chênaies, dans les hêtraies. Et même le chêne vert, qui est une essence méditerranéenne, que vous connaissez peut-être, qui est très résistante aux canicules, à la sécheresse estivale. La photo que vous voyez là, c'est une photo que j'ai prise sur le site expérimental qu'on étudie dans mon équipe, mais c'est un phénomène qui a été massif cette année-là. Alors c'était, ça commence à, je crois que c'était 2018, je ne sais plus si j'ai... La canicule, oui c'est ça, c'était 2018, la canicule la plus précoce qu'on ait eue en juin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le feuillage avait brûlé, parce que cette canicule était arrivée très tôt. D'ailleurs, ça n'a pas brûlé que le chêne vert, mais c'était vraiment massif dans toutes les forêts de chêne vert. Et pourquoi ces feuilles ont brûlé ? Parce que le chêne vert, c'est une espèce dite sempervirente qui garde ses feuilles. Du coup, elle fait ses nouvelles feuilles assez tard dans la saison. Et en fait, les feuilles, à ce moment-là, n'étaient pas du tout matures. Elles n'étaient pas capables de résister à une canicule. Comme elle le fait normalement, quoi. Voilà. Donc toutes les essences sont vulnérables à ce changement climatique. Et puis, petit focus sur les forêts d'épicéas. Elles sont mortes. Elles ont été ravagées par un scolyte. Donc les scolytes, ce sont des petits insectes qui creusent des galeries sous l'écorce et qui, coupent les vaisseaux conducteurs. Et du coup, la sève ne monte plus. Et en fait, ces scolytes, ils sont un facteur aggravant, c'est-à-dire qu'ils profitent de l'affaiblissement des arbres, affaiblissement qui est lié au réchauffement climatique, c'est-à-dire que quand il fait trop chaud et trop sec, les arbres photosynthétisent moins, ils croissent moins également. Donc ils photosynthétisent moins, ça veut dire qu'ils ont moins de ressources pour pouvoir produire les molécules nécessaires pour se défendre contre les ravageurs et les pathogènes. Donc ça fait, on a un effet boule de neige qui s'enclenche, et c'est pour ça qu'on a eu vraiment des forêts d'épicéas décimées, mais pas qu'en France, c'était dans toute l'Europe, et en particulier dans les régions de plaine, là où le climat leur était le plus défavorable. Voilà, donc l'effet des ravageurs vient surimprimer à l'effet du changement climatique et profite en fait un peu de la situation. Le risque incendie, il est en augmentation du fait du changement climatique. Alors, pour la simple bonne raison que même à pluviométrie constante, quand il fait plus chaud, l'évaporation de l'eau du sol est plus importante et la transpiration des plantes, elle aussi, est plus importante. Donc l'eau dans le sol, arrivée à l'été, les niveaux d'eau dans le sol sont plus bas. La végétation elle-même finit par être dans un état de un peu de déshydratation et donc un combustible très très inflammable. Vous voyez sur ce, alors ça c'est un extrait d'un article qui a porté sur les incendies qu'on a eu en 2022 dans la forêt des Landes, mais ici vous voyez l'évolution des surfaces brûlées depuis 2006, là depuis qu'on suit de près ces incendies de forêt. Vous voyez que donc c'est en bleu, c'est-à-dire que ces incendies concernaient jusqu'ici la zone méditerranéenne, un peu logique, même si on a l'impression que ces dernières années, ces surfaces brûlées ont eu tendance un peu à augmenter. Et puis voilà, ces incendies de 2022 qui vraiment sont, enfin, dans cette série chronologique apparaissent exceptionnelles. Exceptionnelles de par les surfaces incendiées et exceptionnelles de par la localisation de ces incendies. Et vous voyez même que voilà, on a ces points rouges ici correspondent à d'autres feux de forêt qui ont eu lieu la même année dans des régions qui sont en général épargné par ces incendies de forêt. Donc le risque incendie en France augmente, il va continuer d'augmenter. Les surfaces brûlées, ceci dit, restent relativement modérées, on va dire, comparées à d'autres régions du globe, comme l'Australie ou le Canada, les États-Unis, parce qu'on est dans une région qui est très peuplée. Donc on a des paysages très morcelés, qui fait que quand vous avez par exemple une vigne à côté d'une forêt qui brûle, la vigne va jouer un peu le rôle de coupe-feu. Et puis, bien sûr, on a une lutte incendie qui est remarquable, remarquable d'efficacité. Alors, là, on va commencer à parler de choses qui sont un peu plus, moins connues, on va dire. Du public et peut-être un peu plus ardu, peut-être. On va parler du puits de carbone des forêts. Alors, dans ce graphique, tout ce qui est positif, ce sont des émissions de CO2 et tout ce qui est négatif, ce sont des absorptions de CO2. Le bilan de carbone net, il est ici. Là, c'est retracé depuis 1990, l'évolution de ce puits, enfin de ce bilan. Donc vous voyez que globalement, c'est un puits. Les forêts sont un puits de carbone. Et vous voyez que parfois, ce puits s'est réduit, notamment ici, et puis ici. Et ça correspond aux tempêtes. Grosse tempête, les tempêtes Lothar et Martin qu'on a eues en 99, l'hiver 99, et puis ici, la tempête Klaus, l'hiver 2009, donc, qui ont généré, donc, sur cette courbe, en fait, ce sont les récoltes de bois. Donc, quand vous avez des tempêtes, vous avez un afflux de bois qui est tombé au sol qu'il faut récolter. Mais malgré tout, vous voyez que sans tempête, cette courbe de récolte a continué un petit peu d'augmenter. On l'a vu tout à l'heure, les prélèvements ont augmenté de 20%. Ici, vous avez la courbe de la mortalité des arbres. Et donc, si vous regardez bien, vous voyez que elle a augmenté très, 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 très progressivement jusqu'en 2014. Et puis, elle a fait un petit saut là, sur les dernières années. Donc, on l'a vu tout à l'heure que la mortalité avait augmenté 50% ces dernières années. Et ici, vous avez la courbe de la croissance. Donc tout ça, ce sont des émissions de CO2 hein, de la forêt. Et puis, la croissance, elle, c'est contraire le puits. Donc, c'est ce CO2 qui va être stocké dans le bois. Cette croissance, vous voyez qu'elle... alors, là, on est en négatif. Hein, donc... la séquestration a eu tendance à augmenter et puis ces dernières années a diminué. L'augmentation de la croissance des forêts, elle a été liée à plusieurs choses, mais notamment le fait que, on va le voir un peu aussi dans quelques minutes, c'est que la période de croissance des arbres a augmenté. Sous l'effet du changement climatique. Hein, Et donc, si on fait le bilan de ces différentes courbes, eh bien, le fait qu'on a eu plus de prélèvements, le fait qu'on a eu plus de mortalité et le fait que la croissance s'est ralentie, ben, on a un puits qui a quand même beaucoup diminué. Parce que, voilà, il avait progressé, on était passé de 40 millions de tonnes à près de, on va dire, 75 millions de tonnes de CO2 séquestrées par an. Et on est revenu à peu près 30 millions de tonnes de CO2 par an. Alors, est-ce que c'est grave ? Bah, c'est quand même un petit peu grave. On va voir après pourquoi. Pour terminer sur cette partie, je voulais vous parler un peu d'autres effets qu'a le changement climatique sur les arbres, qui sont un peu plus subtils, mais qui sont très importantes sur le long terme. La première chose, c'est que ce changement climatique, il modifie les rythmes biologiques. Vous le savez probablement, pas mal d'êtres vivants, et en particulier les plantes et tous les animaux qui ne régulent pas leur température corporelle, ont un cycle annuel de développement. Donc là, j'ai pris, ça c'est du être. Voilà, le cycle du être. Et ce cycle, il est piloté par les conditions de température. Et donc l'hiver, voilà, le être est en dormance, les bourgeons sont dormants, ils vont s'ouvrir au printemps sous l'effet de l'augmentation des températures. La floraison a lieu, la croissance, la formation des fruits. Et puis, arrivé à l'automne, on a une diminution de la température, diminution de la durée du jour. Les arbres rentrent de nouveau en dormance. Ils font ce cycle. Cette dormance, c'est une adaptation aux conditions hivernales qui sont défavorables à la croissance des plantes. Et le réchauffement climatique a avancé en fait la sortie de l'hiver, donc avancé le printemps biologique. Il a eu tendance à retarder un peu la fin d'activité. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on a eu une période de croissance qui a eu tendance à augmenter depuis le début du siècle jusqu'ici. Et ces modifications dans les rythmes biologiques ont eu plusieurs conséquences. Ah oui, petite précision quand même. Ça, c'est ce qu'on voyait jusque début des années 2000. Depuis, on a d'autres choses qui apparaissent, qui sortent d'une évolution un peu linéaire des choses, où on voit ce qu'on appelle des anomalies de développement. Et vous avez juste deux exemples ici. Ça, c'est la hêtraie du Ventoux au mois d'août. Qui est très sénescente, hein, qui était à ce stade-là. Et ici, vous avez un prunus à Clermont-Ferrand, au mois d'octobre, en pleine fleur. Et ces phénomènes-là, ils sont de plus en plus fréquents. Pour nous, on les appelle, dans mon jargon, des anomalies phénologiques. Bon, la phénologie, c'est l'étude de ces rythmes biologiques. Des anomalies qui ont pas mal de conséquences et qui annonce des choses plus préoccupantes. Je ne vais pas rentrer là dans le détail parce que j'ai peur de déborder. Je vois qu'on est déjà... Il est déjà 7h20, non ? Ouais. Donc, ces modifications dans les rythmes biologiques, ils ont eu pour conséquence l'avancée du printemps, augmentation des dommages de gel, hein, qu'on dit tardif au printemps. Voilà, ça vous a... Vous avez eu dans la presse a pas mal relaté ces problèmes de gel, notamment pour les agriculteurs. Augmentation de la sécheresse, parce que comme on commence son activité plus tôt, on commence à puiser l'eau dans le sol plus tôt. Donc on arrive à l'été où on n'a plus d'eau déjà. Voilà, en plus de l'effet du réchauffement, hein, ça s'additionne. Et pour terminer, voilà, pour tous les êtres vivants qui ont des cycles comme ça, qui sont très pilotés par la température, chaque espèce en fait réagit différemment au changement climatique, donc les rythmes biologiques se modifient pas tout à fait de la même façon, donc on a des rythmes qui se désynchronisent, et en fait ces synchronisations de rythmes saisonniers, elles sont la base des interactions dans les chaînes alimentaires. Et donc, si ça se dérègle, en gros, bah, ces chaînes alimentaires, elles ne fonctionnent plus. Et il y a une étude qui avait estimé que sur 10 chaînes alimentaires, 6 espèces pouvaient être en risque d'extinction du fait de ces désynchronisations de cycles entre espèces. Parce que, voilà, pour prendre un exemple plus concret, les oisillons, quand ils sortent de l'œuf, ils mangent des petites chenilles qui elles-mêmes mangent des jeunes feuilles de chêne, voilà. Et si les oisillons, quand ils sortent, ils ont plus de chenilles mais des chrysalides, donc ils peuvent pas manger, eh ben ils meurent, voilà, pour être très concret. Voilà, et tout ça, enfin ces modifications dans les rythmes biologiques ont des conséquences sur la survie de chacune de ces espèces et sur leur capacité à se reproduire. Et donc, quand on arrive à modéliser ça, qu'on met ça en équation dans des modèles et qu'on essaye de voir qu'est-ce qui va se passer dans les conditions climatiques futures, on a ce genre de représentation. Ici, c'est un modèle qui vous dit, en gros... actuellement, là où le climat est très favorable, enfin est favorable ou pas au être. Et puis quand on donne le climat en 2100 avec un réchauffement de l'ordre de 4 degrés, ben voilà ce que donne le modèle comme prévision. Et donc ce que vous voyez là, en fait, ce sont des choses qui sont déjà en cours. Il y a eu énormément d'études qui ont montré que les espèces étaient en train de remonter vers les pôles et de remonter vers les sommets des montagnes pour trouver les conditions climatiques qui leur permettent de survivre, de réaliser leur cycle correctement, de se reproduire, etc. Donc voilà, ce que montrent nos modèles, c'est que ce phénomène-là, il va s'accentuer. Toute la question, un peu là maintenant, c'est de savoir à quelle vitesse tout ça va avoir lieu. Et essayer de faire au mieux pour la suite. Voilà, il me reste quelques minutes pour parler des challenges. Donc après tous ces constats, je pense qu'il est assez aisé de comprendre que la filière forêt-bois se retrouve au centre de beaucoup d'attention actuellement. Et qu'elle a pas mal de challenges à relever, hein, et nous-mêmes en tant que société. Le premier challenge, ça va être de maintenir une forêt. Et pour cela, il faut bien sûr prendre en compte les effets du changement climatique dans les plans de gestion des forêts. Alors, ça fait pas très, très longtemps, en fait, que ce changement climatique est pris en compte dans ces plans de gestion, ça fait quelques années. Mais surtout, le problème, c'est que les gestionnaires n'ont pas beaucoup d'outils à leur disposition pour les aider à prendre les meilleures décisions. Alors, on peut leur fournir des cartes comme celle-ci, hein, comme tout à l'heure, qui vous montrent là où le climat en rouge va devenir vraiment très défavorable à l'espèce, et puis en bleu, plus favorable. Donc vous voyez qu'en France, on n'est pas très bien lotis, globalement, par rapport à ça. C'est-à-dire que toutes les essences que l'on a actuellement dans nos forêts vont beaucoup moins bien se porter à l'avenir, voire disparaître en fait, de nos forêts. Du coup, on est un peu obligé d'expérimenter grandeur nature, c'est-à-dire expérimenter notamment l'introduction d'autres essences qui seraient plus adaptées aux conditions futures. Et là, je vous montre quelques exemples de ce qu'on appelle des essences d'avenir, point d'interrogation, parce que on sait pas très bien. Donc ces essences-là, vous voyez, ce sont des essences qui viennent de régions plus au sud. Le cèdre de l'Atlas, il a été beaucoup introduit est planté en région PACA. Il se porte très bien en région PACA. Et là, voilà, on l'a introduit dans les Vosges, à la place des épicéas, en se disant que, ma foi, peut-être que ça se passera très bien pour le cèdre là-haut. Le chêne zéen, c'est un chêne qui vient d'Espagne, enfin, qu'on trouve en Espagne, au Portugal et jusqu'en Tunisie, Algérie, Maroc. Le chêne pubescent, lui, il est déjà présent chez nous et il a un bel avenir devant lui en France. Le pin maritime, qu'on trouve essentiellement dans les Landes, bah, jusqu'ici se porte bien dans les Landes. Donc, et c'est vrai que c'est une essence qui est un peu gourmande en eau, qui résiste assez bien à la sécheresse. Donc on se dit qu'on pourrait aussi le planter ailleurs. Mais voilà, tout ça, c'est un peu, comme je disais, actuellement expérimenté par nos gestionnaires, les gestionnaires forestiers. Il va falloir aussi revoir un peu les pratiques sylvicoles, donc la façon dont on gère et on conduit les forêts. Le maître mot actuellement, et ça je l'ai vu aussi dans l'exposition, c'est de diversifier les forêts. C'est un gage de résilience, tout simplement parce que voilà, hein, c'est un peu le fait de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Et on sait très bien, mais c'est pareil hein, en fait, en agriculture, hein, quand vous avez des surfaces entières couvertes d'une seule espèce, eh bien, elle va être très vulnérable à n'importe quel ravageur ou pathogène qui va se répandre et qui va en profiter allègrement. Les forêts monospécifiques sont également très vulnérables aux tempêtes. Et en plus de ça, bon, il peut y avoir aussi des effets qu'on appelle de complémentarité entre espèces quand elles sont en mélange. Ça, ce sont des sujets de recherche actuellement très étudiés, voilà. Merci. Éclaircir aussi, il va falloir éclaircir nos forêts parce qu'il y a moins d'eau. Donc voilà, de toute façon, si on ne le fait pas, ça va s'auto-éclaircir tout seul, c'est-à-dire par compétition. La compétition pour l'eau va devenir telle qu'on ne pourra pas maintenir les mêmes densités d'arbres dans nos forêts qu'avant. Par contre, il ne faut pas le faire trop vite ni trop fort, parce qu'il faut quand même garder un couvert, un microclimat forestier si on veut que la forêt se régénère. Donc voilà, il y a aussi pas mal d'études sur tout ça, comment faire, quand est-ce qu'il faut éclaircir, dans quelles conditions, etc. Privilégier la régénération naturelle plutôt que les coupes rases suivies de plantations. Alors, ça aussi, c'est un grand sujet et de discorde. Avec tout, bon, les coupes rases, voilà, c'est une aberration écologique, mais en plus de cela, je dirais, le problème ici, c'est que, ben, coupes rases, vous faites une plantation derrière, les échecs de plantation n'ont jamais été aussi élevés. Et ça ne va pas aller en s'améliorant. Donc, c'est-à-dire que, en fait, ça ne va quasiment de toute façon plus être possible, ce mode de pratique. Alors, pourquoi il y a ces échecs ? Ben parce que vous mettez des jeunes, des petits plants de quelques 2-3 ans en plein cagnard, voilà, ça résiste plus, quoi. Garder quelques vieux arbres et augmenter la diversité génétique, là, c'est, voilà, on est sur l'aspect adaptation des forêts au changement climatique, adaptation aux sciences darwiniennes, pour que la sélection naturelle se fasse le plus vite possible, donc pour sélectionner les individus qui seront les mieux adaptés dans les conditions futures, il faut enrichir, il faut avoir la plus grande diversité génétique possible. Et ben ça se fait alors, en introduisant d'autres essences, là c'est les cas extrêmes, mais ça peut aussi se faire par enrichissement par l'homme, c'est-à-dire on apporte par exemple des glands, ben c'est bien expliqué aussi je crois dans l'exposition, on va par exemple aller chercher des graines, des populations qui d'une essence qui est actuellement vit au sud et on va l'apporter beaucoup plus au nord, on va venir enrichir les populations du nord avec du matériel génétique qui vient des populations du sud. Ça se fait déjà. Et puis, favoriser une sylviculture à couvert continu, ça, c'est de manière à avoir une gestion plus souple du peuplement avec une meilleure maîtrise de la densité d'arbres et de sa compétition et avoir une meilleure résilience du peuplement. Le deuxième challenge, gros challenge, c'est, et là c'est le nœud un peu du... Enfin, c'est un nœud assez inextricable, mais trouver que la forêt trouve sa place dans l'atténuation du changement climatique. Pourquoi ? Parce que la forêt, elle permet d'atténuer le changement climatique de deux façons. Elle absorbe du CO2, après elle le stocke. Elle le stocke soit en forêt, donc on garde les arbres, on garde le bois vivant en forêt, soit on utilise ce bois pour substituer à d'autres matériaux, comme le béton ou comme des énergies fossiles qui sont encore plus émettrices que le fait d'utiliser le bois. D'accord ? Donc, toute la question actuellement, le débat intense qu'il y a dans la filière, enfin dans la filière et parmi dans la communauté scientifique, c'est de savoir s'il vaut mieux laisser en gros le carbone en forêt ou bien l'utiliser pour... l'utiliser dans les produits bois. Donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? C'est vraiment pas une question triviale, en fait. C'est une question d'optimisation d'un système. Et donc, c'est très compliqué. Laisser le carbone en forêt, on peut se dire, oui, c'est mieux, parce qu'une fois que l'arbre meurt, eh bien, il se décompose et puis le carbone finit par être stocké dans le sol et le temps de résidence du carbone dans le sol est très long. Donc c'est très bien. Mais si cette forêt, elle brûle avant que mes arbres meurent et puis ça va pas du tout parce que ce carbone, il se retrouve immédiatement dans l'atmosphère. Donc c'est peut-être mieux finalement d'utiliser ce bois pour construire des maisons saturbois ou je ne sais quoi. D'accord. Donc c'est vraiment pas une question simple. Mais faire cela, donc utiliser plutôt le bois pour le bois construction par exemple, est-ce que la filière bois en est capable ? On a vu tout à l'heure que la filière bois actuellement en France, 68% du bois finalement était utilisé pour produire de l'énergie, donc repartait directement dans l'atmosphère. Et en fait, au bilan, si on regarde dans les produits bois longue durée de vie, c'est 2% du bois prélevé qui finit en produit bois longue durée de vie. Donc, pourquoi ? Parce qu'on utilise beaucoup donc, le bois énergie. Vous voyez que le bois énergie représente de loin la première énergie de substitution aux énergies fossiles. Énergie de substitution et par contre, parfois, on dit aussi une énergie renouvelable. Alors oui, c'est une énergie renouvelable, mais décarboner, non, en fait. C'est ça que je vais essayer de vous expliquer là pour terminer. C'est que brûler du bois, ce n'est pas neutre en carbone, là, aujourd'hui. Le jour où on sera à la neutralité carbone, ce sera effectivement... Ne brûler du bois, ça n'aura pas d'incidence sur notre bilan carbone. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que quand vous coupez une forêt et qu'elle finit à 70% dans l'atmosphère, eh bien, vous avez un déstockage, vous avez des émissions de carbone, des émissions simplement par le fait de brûler le bois, puis vous avez aussi des émissions par le sol. On sait que quand on fait une coupe rase sur une forêt, le sol... respire davantage et tout le carbone piégé dans le sol est respiré par les micro-organismes et se retrouve dans l'atmosphère. Donc on sait que quand on coupe une forêt, il va falloir au minimum 10 ans pour qu'on revienne à un bilan positif en termes de séquestration. Petit à petit, cette forêt va être un puits, un vrai puits qui va augmenter avec, avec l'âge de la forêt, avec la taille des arbres. On estime en moyenne que l'optimum, il est aux alentours de 40-50 ans. Puis après, avec le vieillissement, les arbres séquestrent un tout petit peu moins de carbone chaque année. Mais ils ont stocké ce carbone dans la forêt. Et ce stock, lui, ne fait qu'augmenter. Mais donc, voilà, pour cette question de temporalité, aujourd'hui, utiliser du bois pour l'énergie, c'est finalement pas neutre en carbone. Et ça pose un gros problème, parce que dans ces conditions, la stratégie nationale bas carbone, que vous voyez ici, elle paraît complètement utopique. Alors, ce que vous voyez là, c'est le bilan de carbone qu'on aimerait atteindre en 2050. C'est-à-dire que le gouvernement s'est fixé 85 millions de tonnes de CO2 qu'on ne pourra pas ne pas émettre et donc il va falloir réabsorber. Et il compte les réabsorber grâce à ces puits que vous voyez là. En vert, c'est la forêt. Ici, c'est des produits bois. Là, ce sont les prairies. Les prairies séquestrent aussi du carbone. Et puis là, vous avez le stockage lié à la géo-ingénierie sur des techniques dont on sait qu'elles ne seront pas fonctionnelles en 2050. Vous trouverez un prochain rapport sur le site de l'Académie des sciences qui va faire le point sur ce sujet-là. Là, vous avez la situation en 2015 de laquelle on part, grosso modo. Vous voyez qu'en 2015, l'essentiel du puits, ce sont nos forêts. Il est là, et dans cette stratégie, ce que le gouvernement a prévu, c'est de couper nos forêts. Il va en rester ça. On mise sur les nouvelles plantations, qui sont ici. Et puis, tout le reste, on compte les mettre dans les produits bois. Les produits bois qui représentent ici 2 millions de tonnes. On veut passer à 20 millions de tonnes. Vous posez la question aux gens de la filière, c'est impossible. C'est impossible. Donc concrètement, ça veut dire qu'on n'arrivera jamais à pouvoir atteindre cette neutralité avec ces 85 millions de tonnes de CO2 émis en 2050. Donc ça veut dire qu'il va falloir être beaucoup plus ambitieux sur la réduction de nos émissions, concrètement. Pour terminer, La filière bois a quand même un rôle à jouer. On peut la faire évoluer en faisant en sorte qu'elle soit un peu moins focalisée énergie papier et un peu plus sur bois construction, ameublement. On peut la dynamiser, faire en sorte qu'elle utilise beaucoup plus les bois de feuillus, parce qu'actuellement, elle utilise essentiellement les bois de résineux. On a perdu beaucoup de scierie, notamment au niveau du tissu local. On a besoin de la dynamiser pour qu'elle soit très réactive, parce que on a beaucoup de mortalité qui arrive. Donc on a ce qu'on appelle du bois de crise, hein, qu'il va falloir utiliser. C'est dommage. Alors on peut le laisser en forêt. Alors il y a toujours cette question, on le laisse en forêt ou bien on en fait quelque chose. Mais en tout cas, ce qui faudrait, c'est parce qu'actuellement, on veut augmenter les prélèvements, mais sans compter ce bois de crise. En fait, il faut pas être proactif et dire on va couper toute la forêt parce que de toute façon, elle va mourir, on va en faire des produits bois. Il faut être réactif, c'est-à-dire qu'il faut suivre la forêt de près. Dès qu'on voit des signes de dépérissement où voilà, on est sûr que la forêt, là, ça va partir, on peut l'exploiter, on va l'exploiter, mais laisser le reste pousser, quoi. Voilà. Donc il faut vraiment tenir compte de ce bois de crise dans les plans de récolte, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et puis, pour terminer, il y a encore quelques leviers aussi du côté de la valorisation, ce qu'on appelle des connexes, donc de scierie, donc tout ce qui, voilà, tous les déchets, entre guillemets, après le sillage, mais ça, on a fait déjà pas mal de progrès là-dessus, mais on peut toujours en faire. Et puis, augmenter l'efficacité énergétique des procédés de transformation, depuis les prélèvements jusqu'au recyclage des produits bois, donc pour améliorer le bilan carbone même de la filière bois. Mais ce seront des leviers qui resteront assez modestes, on va dire, par rapport à la situation. Je vous remercie de votre attention.
Merci. Donc, les questions, ça démarre, je passe. Donc, vous n'appuyez sur rien, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure.
Je ne suis pas sûr que vous l'ayez dit. Merci pour toutes ces informations. Avec ce que vous dites, je m'étonne, et j'imagine que vous allez vous étonner aussi, que dans nos forêts autour de Lyon, là, dans les monts du Lyonnais, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de coupes rases et que derrière, c'est replanté en mono-essence. Et ça, c'est des arbres qui vont être là, qui vont être matures dans 30 ans, 40 ans, donc juste au moment où tout ce que vous décrivez va être là. Donc aujourd'hui, les sylviculteurs, c'est ce qu'ils font, dans le coin en tout cas.
Oui, alors, c'est déjà là. Hein. Enfin, alors, effectivement. Donc, je ne connais pas la situation locale hein, ici, mais bon, vous savez que notre président veut planter 1 milliard d'arbres. Il y a eu des fonds débloqués pour planter des arbres. Ce que je sais, c'est que... Donc, il y avait quelques conditions qui étaient assez... assez modestes hein, pour obtenir ces subventions pour replanter. Mais je sais qu'il y a eu quelques abus. C'est-à-dire que, normalement, cet argent devait servir à replanter soit des peuplements qui étaient morts, hein, les forêts d'épicéa par exemple, soit des peuplements qui montraient des signes flagrants de dépérissement, soit pour enrichir des peuplements ou ce qu'on appelle sortir des peuplements qui sont en impasse. Et je sais qu'il y a eu des plantations qui ont été faites qui ne correspondaient pas à ces critères. Maintenant, je sais que quand même la filière, enfin et même que, enfin alors la forêt publique, elle est gérée par l'ONF et là ça fait assez longtemps maintenant qu'ils sont sur les préconisations que je vous montrais. Pour la forêt privée, ça bouge quand même, ça bouge, oui. Ça, alors peut-être, ça bouge sans doute pas encore assez, mais oui, on voit quand même des changements s'opérer dans. C'est-à-dire que c'est comme nous, hein. Enfin, je veux dire, enfin moi depuis, ça fait presque 20 ans que je fais ce genre d'intervention pour les changements climatiques. Je savais bien que ce serait qu'au moment où on commencera à se prendre toutes les catastrophes. Sur la tête que les gens allaient commencer à se réveiller. Et c'est pareil pour la gestion des forêts. Donc oui, ça bouge, mais ça bouge, et on bouge parce qu'on n'a plus le choix, en fait. Mais il est un peu tard.
Oui, moi je voulais aborder cette question juste avant. Je voulais parler du buis dans nos régions qui a été complètement ravagé par la pyrale du buis. Mais ce n'est pas rien, parce que c'était un couvert végétal qui était énorme sur tous les préalpes calcaires et l'Ardèche, etc. Et aujourd'hui, il a énormément de mal à reprendre. On voit qu'un ravageur, en très peu de temps, hein, en 2-3 ans, peut détruire un couvert qui est important. L'autre question, c'était ça. C'était le fait, vous l'avez montré au début, il y a un quart de la forêt qui est géré par l'ONF, c'est la forêt collective, hein, les collectivités locales. Et il y a 75% qui est géré par qui est d'ordre privé et qui est très morcelé. Hein, donc en fait, dans lequel il y a des tentatives politiques pour essayer d'agglomérer, d'avoir des gestions un peu plus collectives de ces forêts. Mais on sent bien qu'un propriétaire privé, lui, ce qu'il veut, c'est un rendement assez rapide. Ce qui explique qu'aujourd'hui, ce que dit le monsieur, c'est qu'on voit encore des coupes rases hein, dans tous les monts du Lyonnais. Et la question, donc, est-ce que là-dessus... je ne sais pas si c'est toujours le CRPF, le Centre régional de la propriété forestière, qui intervient, via les chambres d'agriculture aussi, je crois qu'ils sont là-dedans. On voit quelles sont les tendances aujourd'hui par rapport à toutes les questions environnementales dans le pays, par rapport... il y a actuellement un reflux hein, sur l'idée des questions de la protection environnementale, donc ça, c'est inquiétant. Et on voit que politiquement, il y a vraiment une politique volontaire de destruction, d'entacher les idées environnementales. Et ce que je voulais attirer, moi, c'était, parce que je le sais, parce que j'ai travaillé dans le ministère de l'Agriculture, c'est qu'aujourd'hui, depuis des années, on détruit l'emploi public. C'est-à-dire que les services forestiers dans les services publics ont disparu. L'ONF, il y a des coupes rases de personnel. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de personnel capable de transmettre le savoir. Et il y a un affaiblissement considérable des services publics. Et on continue. Donc, ce qui est inquiétant, c'est ça. Votre exposé est très clair. Mais on voit que les gouvernements, face à ces enjeux, prennent des orientations qui ne vont pas du tout dans le sens d'ordonner un règlement dans le cadre d'une planification publique, d'ordonner le règlement de cela. Et bon, qu'on ait un président qui veuille planter un milliard, mais il veut faire beaucoup de choses, ça, on s'en fiche totalement. Ce qui nous intéresse, est-ce qu'il y a des structures qui sont solides là-dessus, quoi.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec votre constat. Je ne peux que le déplorer. Oui, enfin, je pense qu'on est sans doute plusieurs à faire le même constat. Bon, ce milliard d'arbres, il est très doux, monsieur Emmanuel Macron est très doué en communication, ça on le sait, mais bon, l'idée en l'absolu est bonne, hein, mais après, en fait, tout dépend de comment on les plante, ces arbres. Enfin, voilà. Où est-ce qu'on les plante, comment on les plante, qu'est-ce qu'on plante, etc. Mais voilà. Bon, je veux pas.
Attendez, madame, je vous passe le micro pour qu'on vous entende.
Merci, c'est gentil. Oui, moi j'avais une question. Est-ce que la gestion, les personnes qui ont en charge la gestion de la forêt envisagent de faire appel aux lianes, parce que par exemple en cas de tempête, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui refait un sol, qui refait quelque chose. Est-ce que c'est envisagé de... Non.
Non, je n'ai rien entendu.
Ce serait dommage parce que il y a ce livre là qui a été écrit donc par ces trois scientifiques. Et qui est vraiment l'éloge des lianes, qui est un livre fantastique, en fait, où vraiment ça...
Ouais.
Par exemple, elle parlait des lianes donc, qui régénèrent, par exemple, quand il y a eu une forte tempête qui a détruit toute la forêt, ben, plein de lianes ont poussé pour, justement, c'est comme une réparation, en fait. Elle parlait aussi de cette liane au Vietnam, où rien ne repoussait à cause de l'agent orange, et qui cette liane peut refaire un sol, parce que c'est la seule plante qui résiste. Et bon, et voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très intéressant là-dedans, faute de mieux, ou peut-être que c'est très bien,
une aide. Pour répondre à la question, non, il n'y a pas. Alors, il n'y a pas d'études. Enfin, bon, il y a des études sur les lianes, oui, mais je veux dire, dans ce contexte-là, j'ai rien vu. Et du côté de la filière gestionnaire. Voilà, j'en ai pas entendu parler non plus. Bon, en France, bon, en fait, les lianes, elles sont plutôt, comment dire, encombrantes pour l'exploitation. Donc, je peux pas vous en dire plus. J'ai rien entendu sur le sujet jusqu'ici.
Bonsoir. En faisant des tests, en fait, avec des nouvelles essences qui viennent plus du sud, est-ce que vous avez, pas peur d'introduire des ravageurs pour lesquels, aujourd'hui, on n'aurait pas de compétition et ou d'autres maladies?
Oui, ça, c'est bien sûr, c'est un sujet qu'on connaît bien. Donc, parce que voilà, les invasions biologiques, elles ont été pas mal étudiées hein, quand même maintenant. On sait qu'effectivement, en introduisant des espèces qui n'existaient pas, on a ce risque. Alors, pour ce qui est invasion, bon, pour les arbres eux-mêmes, non, mais par contre, introduire d'autres êtres vivants par la même occasion qui pourraient causer des dommages, effectivement, c'est alors, il y a des préconisations. Pour le faire, donc si elles sont suivies, ça ne devrait pas poser. Enfin, si. Bon, on n'est pas à l'abri du risque, en tout cas. Mais en tout cas, oui, c'est c'est bien présent dans le... les règles à suivre.
Bonjour, c'était une question tout à fait anecdotique et d'ordre davantage littéraire que scientifique. Je voulais simplement savoir si vous saviez de quelle forêt était issue la photo sur laquelle nous sommes restés bloqués.
Vous voulez dire quelles essences il y a là?
Non, la
plus,
forêt.
En plus, la qualité est très mauvaise, comme vous voyez. J'aimais bien parce que c'était un peu un flou artistique.
Oui,
à vue de nez, je dirais que probablement dû être, mais...
Non, la localisation.
Ah, la localisation. Non.
Bon.
Non. Celle que je vous ai montrée avant, il y en a beaucoup qui venaient de troncer, de percer toutes les chaînées, les futaies régulières de chaînes. Voilà, il y a Chantilly, Troncé, Bernay, mais là, celle-ci, je suis désolée, non, je ne sais pas. La hêtraie la plus méridionale en France se trouve sur les hauteurs de Banyuls. C'est une hêtraie que j'étudie. Avec des collègues présents dans la salle d'ailleurs. Comment ? Voilà, donc on trouve encore le hêtre même au sud, bien sûr, sur un peu en altitude, mais et bien sûr, bon, je vous étonnerai pas si je vous dis qu'elle se porte pas très bien cette hêtre à la Massane, mais.
Bonsoir, je suis data analyst chez Enedis et on observe la qualité de fourniture sur les réseaux, et on peut voir du coup les endroits où il y a beaucoup de chutes d'arbres ou non sur les réseaux électriques. Mmh. Et mes collègues me remontent qu'en Alsace-Franche-Comté, il y a un taux de mortalité qui est assez exceptionnel en France. Est-ce que vous avez une idée de... Est-ce qu'on est capable de localiser précisément les endroits où les arbres sont malades?
Alors oui, alors, j'avais une diapo là-dessus, mais... je ne vais pas aller la repêcher, mais oui, on a des méthodes de suivi qui, depuis très peu de temps, deviennent vraiment extraordinaires en fait, pour suivre l'état des forêts. Donc, ce sont en fait les images satellites qui sont maintenant... On a des produits satellites qui sont à très haute résolution spatiale et qui permettent de faire un suivi beaucoup plus précis et fin que ce qu'on pouvait faire jusqu'ici des forêts. Donc on est capable, alors ça c'est de la recherche en cours, mais dans 5-10 ans ce sera je pense, même au moins 5 ans je dirais, opérationnel pour du suivi vraiment. On peut, donc on est capable de mesurer la hauteur des arbres, et du coup quand il y a une coupe, ou quand il y a une tempête, enfin voilà, que les arbres sont enlevés ou tombent au sol, on le voit très bien. On peut aussi, alors ça c'est des développements en cours, mais justement voilà, il y a des recherches pour suivre à partir de ces imageries satellites l'état de la forêt en termes de dessèchement par exemple, savoir quand elle est en stress. Et donc oui, dans le nord-est, c'est le nord-est qui a le plus subi de mortalité. D'ailleurs, donc certaines de nos forêts sont devenues émettrices en carbone, et le nord-est en fait partie du fait de ces fortes mortalités, parce qu'on avait beaucoup d'épicéas en fait dans le nord-est, c'est pour ça. Voilà. Bon, alors, la carrosse du frêne, c'est un peu une autre histoire. Donc là, c'est un pathogène qui... Alors, c'est vraiment très dommage. Il affecte le frêne, et c'est vraiment très dommage parce que le frêne résiste très bien, en fait, pour l'instant, au réchauffement climatique. Partout où je l'observe, c'est vraiment très étonnant. Alors, pour moi, c'était très étonnant parce que c'est pas du tout une essence qui est beaucoup valorisée... dans la filière, et qui est beaucoup plantée, bon, à cause de la calarose en fait, mais finalement quand on regarde sa physiologie, on se rend compte qu'il est très résistant au stress hydrique. Alors oui, alors oui, bon, ouais, enfin bon, y a d'autres problèmes que le changement climatique dans les forêts aussi.
Bonsoir. Entre le marasme des pouvoirs publics et la recherche de rentabilité du privé, donc qu'on voit dans beaucoup de domaines, Il y a des mouvements citoyens qui s'amorcent. Il y en a aussi dans ce genre d'endroit. Est-ce que vous avez entendu parler de l'association Vite des Arbres ?
Alors, il y a beaucoup d'associations qui ont émergé. Bon, alors,
c'est à la marge, mais...
Oui, alors, qui rachètent des forêts, par exemple qui...
Non, là, par exemple, Vite des Arbres, ils récupèrent des arbres qui sont sûrs de pouvoir survivre et qui sont mis en jauge et qui vont être distribués gratuitement aux gens qui en ont besoin, aux collectivités, pour vite des arbres, pour vite replanter. Et bon, ils disent qu'on fait vite une forêt en 10 ans, quoi. Donc assez vite, mais bon, c'est à la marge, mais voilà. Et une autre question, c'est sur l'agro-homéopathie. Je crois qu'ils ont trouvé des choses, par exemple, pour le buis, pour la pour guérir, voilà. Avec l'homéopathie, ça marche aussi sur les arbres. Voilà. Je sais pas si vous...
Alors, pour l'homéopathie, je ne pourrais pas me prononcer. Mais pour donc les associations... en fait, il y a effectivement beaucoup d'associations qui se sont créées. Et beaucoup pour acheter des forêts. Pour racheter des forêts et les laisser soit en libre évolution, soit pour les gérer de façon plus... plus écologique enfin voilà. Donc ça, oui, il y a un gros mouvement pas là-dessus, mais qui est vraiment significatif en fait. Faut savoir que dans les trois quarts des forêts privées, la grosse majorité est détenue par des banques, des assurances et des fonds de pension. Et en fait, souvent les petits propriétaires forestiers sont pas très enclins en fait à exploiter leur forêt. Ils ont un attachement voilà à leur forêt. Ça représente quelque chose pour eux autre qu'une masse financière. Et bon, c'est pour ça aussi que la filière bois en fait aimerait bien que tous ces petits propriétaires forestiers exploitent plus leur forêt.
Vous voyez, dans la symbolique des forêts françaises, se trouve la forêt de Troncet, mm-hmm. puisque déjà au XIIe siècle, on exploitait le bois pour les charpentes de Notre-Dame. Qu'est-ce qu'il en est exactement au jour d'aujourd'hui de son état ? Apparemment, il n'y a pas eu de dommages très importants comme dans d'autres régions. Apparemment, elle a échappé un peu à tout ça. Et comment elle est gérée actuellement ?
Alors, vous me posez la question un tout petit peu trop tôt, parce que j'ai pas encore étudié la forêt de Troncet, mais il se peut que je l'étudie bientôt. Alors, la forêt de Troncet, c'est une futaie régulière de chênes qui, comme beaucoup d'autres, ont été à l'origine plantés sous colbert pour l'alimentation de l'industrie navale. Il n'y a pas eu de, contrairement à Chantilly, qui est aussi qui est exactement le même type de forêt, où il y a eu beaucoup de problèmes, mais surtout liés aussi à des coupes rases en fait, parce que bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Troncet. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de très gros dépérissement, mais elle est quand même, enfin les signes, enfin il me semble que il y a quand même des signes de dépérissement. C'est une forêt qui commence à être bien étudiée, donc il y a plusieurs équipes de recherche qui ont commencé à travailler dessus. Je peux pas vous en dire plus pour le moment, je suis désolée. C'est une forêt gérée par l'ONF.
Excusez-moi, moi je viens de l'industrie pharmaceutique et de la recherche chimique, académique. On travaille en réseau, évidemment. Trouver un nouveau médicament, c'est extrêmement difficile. Vous, pour les forêts, je trouve que c'est beaucoup plus important que de trouver un nouveau médicament. Enfin, c'est une opinion personnelle. Vous travaillez en réseau en France Vous êtes à Montpellier ?
On n'est pas extrêmement nombreux quand même à travailler sur les forêts. Enfin, Bon, voilà, là, on est justement, je regarde Marie-Claude qui est dans la salle, mais qui on monte un projet actuellement où on essaye de rassembler le plus d'équipes possible pour travailler de concert. Oui, bien sûr, dans la recherche, on travaille un peu en réseau. Et dans le domaine, on n'est pas trop, comme dans d'autres domaines, à se tirer un peu la bourre, comme on dit. C'est-à-dire, on n'est pas trop. Enfin, voilà. On n'est pas trop en compétition, on est plutôt dans la collaboration. Oui, donc le gouvernement a débloqué pour la recherche pas mal de fonds sur différents sujets, dont sur le sujet de la forêt. Pour accélérer un peu la recherche sur la forêt. Donc il y a, je ne sais plus, quelques millions d'euros. Et c'est récent. Enfin là, on va soumettre un projet au mois de janvier, justement, à ce programme. Voilà. Ouais, en lien. Donc, c'est-à-dire, l'objectif, c'est de rassembler la recherche, les chercheurs, les gestionnaires, les filières pour travailler de concert.
Et je rebondis sur ce que vous venez de dire. Donc, 75% de la forêt française est privée. Et vous avez dit, c'est les assurances, les banques, etc. Mais il y a aussi des petits propriétaires qui sont d'accord, attachés à leur forêt. Mais quand ils veulent faire du bien à leur forêt, exploiter aussi bien pour leur bien, pour récolter en quelque sorte, et que pour faire du bien à la forêt, mais ils n'ont pas grand moyen de... On se retrouve en face de gestionnaires qui sont des récolteurs de bois, qui ne pensent qu'à récolter des mètres cubes. Ils vous sortent des bilans de mètres cubes, etc. Deuxième question, je vous laisserai répondre à ça. Et puis deuxième question, c'est donc il n'y a pas de transfert de connaissances quoi, par rapport aux petits forestiers. Attendez, je finis. J'ai une autre question. À partir de quand on peut parler de forêt? On a une plantation d'un hectare, on a mis des arbres qui ont 40 ans. Est-ce que ça, c'est une forêt? Ou quand ils ont 10 ans, c'est une forêt? Ou quand ils ont 80 ans, c'est une forêt? Quelle est la définition de la forêt?
Là, vous me posez... Alors, il y a une définition, et je ne l'ai plus... Oui, donc il y a une définition... qui tient compte de la superficie et de la taille des arbres. Mais comme j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres, j'ai oublié la superficie et la taille. Donc vous avez tout à fait raison par rapport... Et c'est un gros problème, en fait. Donc les petits propriétaires forestiers sont assez démunis. Ce problème... Et c'est pour ça qu'ils... Ils essayent de se regrouper. Alors, je sais que dans certaines régions, ils essayent de se regrouper, justement, pour essayer de... l'union fait la force. Et donc, mais par contre, on a ce problème de transfert que vous évoquez. Comment la recherche peut aider ces petits propriétaires? Il faut communiquer par des canaux efficaces que je ne connais pas. C'est les pouvoirs publics aussi, les ministères de l'agriculture, qui doit faire ce transfert, cette communication. C'est pas évident. C'est pas facile. Mais c'est pas facile. Ça a toujours été compliqué. Hein. De toute façon, le transfert de la recherche vers le grand public, ça reste quelque chose de difficile. Ça prend du temps, en fait, pour que les choses percolent. Et,
c'est super
Oui, c'est super important. Je suis d'accord. Je fais attention aux mots que j'emploie parce que je sais qu'il y a beaucoup d'éco-anxiété, notamment chez les jeunes actuellement. Donc, j'ai pas envie de rajouter d'être responsable de cette éco-anxiété, mais oui, la situation est dramatique.
Est-ce que...
Oui, bah, il y en a plus, il y en a plus beaucoup.
Est-ce que vous avez le temps pour une dernière question? Il est 20h04, c'est vous qui me dites.
Oui.
Très brève. Voilà, la dame là-bas, j'arrive.
Bah, la situation est dramatique parce qu'on a trop attendu, en fait.
J'aurais juste une question par rapport à la stratégie nationale bas carbone. Vous avez dit tout à l'heure qu'en fait, on ne pourrait pas la respecter. Mais est-ce que vous avez été intégré en fait, à l'élaboration de cette stratégie ou c'est uniquement des technos qui l'ont fait sans consultation voilà. Et puis, juste une dernière remarque. En fait, à l'ONF, en fait, il y a plein de différents services. En fait. Il y a ceux qui gèrent les forêts publiques. Et ils ont aussi une filiale en fait qui est là pour faire du cash et qui fait absolument n'importe quoi. Et leur objectif, c'est vraiment plus de tout couper que faire de la vraie gestion forestière, quoi. Voilà. Donc en fait, je pense qu'il faut aussi, il y a ONF et ONF en fait. Voilà.
Alors, je savais même pas qu'ils avaient une filiale.
ONF Végétis, ils sont là pour faire des travaux et des études et. Et dans les travaux, ils sont là plutôt pour mécaniser et tout couper que pour faire de la gestion.
Bon, ça, c'est peut-être lié à l'évolution, parce qu'on a dit qu'il y a eu beaucoup de non-renouvellement, ou peut-être même licenciement, je ne sais pas, mais à l'ONF. Donc les effectifs ont beaucoup diminué. Donc peut-être que suite à ça, il y a eu cette filiale qui s'est créée pour... C'est pas trop, mais la stratégie nationale bas carbone... je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à la suite de ce rapport, le rapport de l'Académie, je sais qu'il y a eu une révision de fait de la stratégie. Je ne l'ai pas encore vue, la nouvelle stratégie, la troisième version de cette stratégie. On est à la troisième version, je ne l'ai pas encore vue, je crois, parce qu'elle n'a pas été officiellement publiée. C'est assez incompréhensible, en fait, pour moi.
C'est très compréhensible, c'est du tout nucléaire, donc tout le reste...
Non, mais il n'y a pas que ça, c'est que... multiplier par 10 la production de produits bois longue durée de vie, je dis, pourquoi pas, ça pourrait marcher, mais en fait, la filière peut pas faire ça. Déjà, rien que ça. Et puis, le problème aussi, c'est que les choses vont tellement vite, si vous voulez, que vous avez vu les tendances que je vous ai montrées, la mortalité, la baisse de croissance, etc. Ça va tellement vite qu'ils mettent 2 ans à réviser une stratégie. À chaque fois, on a... Voilà, donc faut voir plus loin, plus long terme.
On arrête là. Merci beaucoup. Merci.